Bienvenue sur Alimente ton sport, un podcast qui se veut un lieu d'échange et de partage sur la nutrition sportive. Je suis Audrey Bélanger-Leclerc, nutritionniste du sport, diplômée du Comité international olympique. J'ai comme mission d'aider les sportifs à développer leur plein potentiel dans leur sport en améliorant leurs connaissances et en développant leur autonomie en nutrition. Avec Alimente ton sport, je souhaite donc te partager mes connaissances et mon expérience en nutrition sportive. Je souhaite aussi échanger avec mes invités sur différents sujets qui touchent de près ou de loin la nutrition, parce que selon moi, on peut alimenter notre sport avec, oui, bien sûr, la nutrition, l'alimentation, mais aussi avec d'autres aspects non négligeables. Merci d'être là, merci de me permettre de réaliser cette mission-là et bonne écoute! Je suis vraiment contente de t'annoncer que je lance officiellement un nouveau webinaire gratuit. Mon dernier webinaire gratuit remonte à juillet 2023, alors là, ça me fait vraiment plaisir là, de lancer ce nouveau webinaire-là. Ce que je vais aborder dans le webinaire, tout d'abord, je vais présenter les 4 mythes nutritionnels fréquents que je vois chez les coureurs, mais la partie la plus importante du webinaire, je vais te montrer, te donner des trucs concrets pour t'éviter de les faire. Pourquoi j'ai décidé de lancer ce webinaire-là? C'est assez simple, je sais, tout comme toi, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations nutritionnelles qui circulent un peu partout. Puis, c'est vraiment difficile de démêler le vrai du faux. Donc, mon objectif avec le webinaire, là, c'est vraiment de te donner des trucs pour tout ça, pour t'aider à comprendre et savoir ce qui fait du sens et ce qui fait moins de sens en nutrition. Le webinaire va avoir lieu en live le 11 mars de midi à 13h, le 11 mars 2024, si jamais tu écoutes l'épisode un peu plus tard, quelques années plus tard. Donc le 11 mars 2024 de midi à 13h. Par contre, si jamais tu n'es pas disponible à ce moment-là, tu pourras réécouter le webinaire là, avec le lien de l'enregistrement. Donc si jamais tu n'es pas disponible, tu peux quand même t'inscrire au webinaire. Les informations pour t'inscrire sont dans les notes de l'épisode, donc tu peux descendre jusqu'en bas dans les notes et tu vas voir le lien pour t'inscrire. Sur ce, je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur le podcast Alimente ton sport. Aujourd'hui, j'ai une invitée avec moi pour un épisode de ma série « Raconte-moi ton anecdote de nutrition ». Mon invitée, c'est une belle découverte de mon année 2023. C'est une coureuse vraiment inspirante avec qui j'ai développé une belle amitié aussi dans les derniers mois. Une belle amitié et des beaux projets, j'ai envie de dire. Je suis avec Tania Rancourt. Salut Tania et bienvenue sur Alimente ton sport.
Salut Audrey, merci de l'invitation.
Ça me fait vraiment plaisir. On a eu plein de belles discussions, mais je pense que d'en parler sur le podcast, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Tania, tu es massothérapeute, tu es aussi coach de course, tu es coureuse toi-même, je l'ai dit tantôt. Tu as débuté ton aventure de course sur la route pour transitionner entre elles. Je pense qu'aujourd'hui, tu fais un peu les deux. Peux-tu nous parler justement de ton parcours et te présenter?
En fait, j'ai commencé sur la route. Moi, je suis la fille d'un papa qui court beaucoup, beaucoup de marathons. Fait que j'allais tout le temps vu courir. Et puis, le père de mes enfants aussi s'était mis à courir quand il avait connu mon père. Fait que je dis souvent que je me suis fait brainwasher à un moment donné par eux autres, là, à force de les entendre parler de course. Fait que j'ai commencé à courir moi aussi je dis que j'ai commencé pour les mauvaises raisons, mais j'ai continué pour les bonnes. En fait, j'ai commencé à courir pour perdre du poids après mes grossesses. Puis j'ai continué parce que ça me fait vraiment du bien physiquement et surtout mentalement. Là. Fait que j'ai commencé en 2007, tranquillement, écoute, un kilomètre à la fois. Puis j'ai progressé un petit peu vite. J'étais chanceuse parce que j'ai pas une. Je pense que dans ma famille, on n'est pas porté à se blesser facilement, là, mais j'ai progressé assez vite là, pour un demi-marathon. Pas un an plus tard. Là, on parle de quelques mois plus tard, j'ai fait un demi-marathon. Puis ensuite, je me suis tout lancée sur le marathon. Et j'ai découvert la trail en 2013. J'ai fait un 25 km trail et j'ai sauté tout de suite sur un 100 km. Fait que c'est ça depuis 2007 là, que je cours, puis depuis 2013 en sentier. Puis oui, tu as raison, j'alterne les deux. J'ai pas. C'est ça, des fois, on a un petit peu peur de dire qu'on aime la route là, quand on est dans la communauté trail, mais moi, j'aime vraiment les deux. Puis de toute façon, on sait, tu sais, moi aussi, je suis en habitude comme toi. Là, c'est pas nous autres qui a le plus de montagne. Fait que, bon, on court sur la route. Puis écoute, moi, je m'assume. J'ai pas peur de le dire, puis c'est ça.
C'est drôle quand tu dis que tu es la fille d'un papa qui court. Moi, je me souviens très bien quand je t'ai découvert. Il y a vraiment plusieurs années de ça. Je me souviens même plus c'était en quelle année, mais c'était au festival H2O à Amos. J'étais allée courir avec mon chum, puis je vais toujours me rappeler, je pense que ton père courait son, je sais pas trop combienième marathon, là, je sais pas si tu t'en rappelles, mais
150.
c'était son 150e, OK. C'était vraiment beau. Je me rappelle, on était à la ligne d'arrivée, puis là, ton père justement arrivait, puis vous étiez toutes là, la famille en cours avec ton père, il y avait des ballons. Je me disais, ah, oh, c'est tellement beau de voir ça. Puis là, j'ai comme découvert la famille en cours qui court en Abitibi. Je t'ai découvert aussi par la bande, fait que... Voilà, je suis vraiment contente.
Ça, c'est drôle à Amos quand même, hein, parce que, tu sais, bon, ça reste quand même que c'est pas des. En région, on n'a pas des gros événements, mais à Amos, ça m'avait marqué parce qu'ils mettent des speakers avec une foule qui crie. Et
Oui, c'est vrai, t'as raison.
je pense que c'est beaucoup de monde, mais finalement, il n'y a pas tant de monde, mais ça garde comme une ambiance, c'est vraiment cool. Oui, puis c'était une de mes amies, elle nous en avait pas parlé, puis elle a fait gonfler des ballons, tu sais, vraiment pour les photos de l'arrivée, là. Fait que, pas belle photo, ouais, c'était cool.
Mais tu sais, tu vois, après plusieurs années, je me souviens encore de ça. Puis même mon chum, j'en parle, puis il s'en rappelle, là.
Ouais, c'est en 2019 exactement.
Super. On est là aujourd'hui pour parler d'anecdotes de nutrition. On se le
Yes.
cachera pas. Est-ce que tu as déjà rencontré des enjeux nutritionnels, que ce soit t'sais, au quotidien en lien avec tes entraînements ou dans des courses officielles?
Ben oui. Écoute, il m'est arrivé des anecdotes. Des fois, c'est pas nécessairement de ta faute, ben, je veux dire de ma faute, de notre faute à nous, là. J'ai déjà couru un marathon puis je couvais la gastro, mais ça, je veux dire, c'était pas de ma faute, là. Mes enfants me l'avaient filé. Puis... je me demandais ce qui se passait avec moi le matin, mais finalement, ben, j'ai compris à peine ma course, là, dans la soirée que ben, j'avais attrapé le virus.
Oups. OK,
Sinon.
t'avais avant de prendre le départ, t'avais pas compris encore. En fait, t'étais quand même bien, là, t'avais pas de symptômes en soi.
Ben, j'avais, c'est ça, hein, j'avais le. Je trouvais que j'avais, tu sais, avant une course, on est tout nerveux, on va aux toilettes.
Oui.
C'est d'habitude, mais je trouvais que j'avais le caca nerveux très, très nerveux. Ouais. Et, fait que, je me questionnais un petit peu, mais pas plus qu'il faut. Puis je suis partie vite, puis je me suis mis à avoir mal au cœur pendant la course. Puis, tu sais, tout, mais c'était à Toronto, puis les odeurs, puis tout, tu sais. J'ai pas l'habitude d'avoir mal au cœur pour rien comme ça, puis j'ai vraiment manqué de gaz. J'ai arrêté, puis j'ai continué, mais tu sais, j'essayais de me classer pour Boston. Je m'étais déjà classée, puis là, j'ai dit, tiens, je vais réessayer une couple d'années plus tard. Puis, ben, c'est ça, là, écoute, j'avais fini peut-être une demi-heure, 40 minutes plus tard que le temps prévu. Puis le soir, ben, j'avais commencé à être malade. Fait que là, bon, ben, je m'étais rappelé, c'est vrai, mes enfants, il y avait la gastro il y a 2, 3 jours. Fait que Tania, elle a pogné le virus. Mais ça, je veux dire, c'est contre.
Ouais.
On peut pas gérer ça. Je veux dire, ça arrive, là. Mais sinon, des trucs qui sont de ma faute, ben, ça. Tu sais, je pense que c'est quelque chose pour vrai qui m'arrive assez régulièrement, là. Je pense que je mange pas assez. Puis ça, c'est le problème de beaucoup de coureurs, là. Tu sais, on dirait on s'entraîne, mais tu sais, je veux dire, on fera jamais nécessairement l'effort qu'on va faire pendant une course, fait qu'on dirait, puis tu sais, veux pas, à un moment donné, dans une course, t'as tellement, tu rencontres du monde, t'es dans ta bulle, puis c'est con, mais t'oublies de manger. Puis, tu sais, mes premières expériences sur Ultra, là, je crois que mon deuxième Ultra, je l'ai faite à Bromont en 2015, j'avais fait le Bromont Ultra. Peut-être après 25-30 km de course, écoute, je ne sais plus, là, mais j'ai bunké littéralement. Écoute, j'étais rendue à côté sur un arbre dans la forêt, puis tu sais, j'étais fait un running body pendant la course là, qui m'appuyait un peu, mais tu sais, on se met à ben, on commence à sentir qu'on manque d'énergie, puis à un moment donné, ben, on se met à avoir mal au cœur. Là, là c'est pas la gastro, c'est plus comme on manque de jus, puis on a encore moins faim, mais il faudrait manger, tu sais. Fait que là, on s'enfonce dans une espèce de spirale comme ça. Puis je me rappelle, écoute, tu sais, je me suis forcée à manger, mais c'est un coke, là, qui m'a sauvé la vie, là, au dernier ravito, là, sinon, ben, tu sais, je pense que j'aurais fini, là, mais, tu sais, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Tu sais, à un moment donné, c'est dur de sortir de là, je sais pas si c'est vraiment possible, probablement, là, mais, tu sais, ça m'est jamais arrivé de retourner si cru que ça dans une course, mais tu sais, à un moment donné, tu atteins une espèce de seuil super bas, puis on dirait que tu n'es pas capable de remonter plus haut que ça. Puis là, ben, tout le reste suit, là, je veux dire,
Mais je trouve
c'est
ça important ce que tu nommes parce que c'est vrai. que ça arrive. Puis effectivement, c'est dur de sortir de cette espèce de trou-là. Puis c'est pour ça que ça, c'est le travail qu'on va faire en nutrition généralement, d'avoir une stratégie qui commence dès le départ. Puis ça, il y a des gens qui me le demandent souvent, tu sais, mettons, je sais que ce soit un entraînement ou une course officielle, je sais que ça va durer un nombre X de temps, que ça dépasse, mettons, tu sais, le fameux 1 heure et demie. Mais est-ce que je commence dès la première heure à intégrer des trucs ou tu sais, j'attends après 2, 3 heures? Puis il y a beaucoup de monde qui font ça, mais la réalité, là, c'est que ça risque de te rattraper si tu n'as pas commencé très tôt dans ta course à consommer des choses. Puis on ne veut pas se rendre dans cette espèce de creux-là parce que, tu sais, ça peut être réversible, mais plus qu'on est creux, plus c'est difficilement réversible.
OK, fait que ça est réversible.
Oui.
OK.
Ouais.
Mais
Mais
tu sais.
encore là, c'est comme tu l'expliques, c'est parce que arrive un stade où, bon, un, on n'a vraiment plus de jus, on n'a plus de jambes, il n'y a plus rien qui marche, mais il y a les symptômes digestifs qui peuvent aussi arriver. Fait que là, la petite nausée, les petits inconforts, puis c'est ça qui est difficile, c'est que là, puis en fait, les symptômes digestifs, il y a tellement de trucs qui peuvent se cacher derrière ça, là, c'est pas juste de manquer d'énergie, là, qui peut occasionner les troubles digestifs. J'en ai parlé beaucoup sur le podcast, là, mais mettons que c'est ça la cause. Ben, c'est difficile de dire je vais manger, consommer des trucs alors que j'ai vraiment pas le goût, ça me roule dans la bouche. Fait que, tu sais, ce que tu avais fait, tu es allé vers un liquide. Mais honnêtement, c'est ça la stratégie. Fait que, tu sais, ce que je dis tout le temps, surtout dans un contexte d'ultra, d'avoir accès à, tu sais, des suppléments en poudre ou quelque chose qu'on amène sur nous qui va nous permettre de sortir de ce trou-là si on y va. Puis l'idéal, en fait, c'est de juste pas y aller, là, mais d'être préventif, d'avoir les bonnes connaissances pour gérer ça si jamais ça arrive définitivement. Fait que, tu sais, dans ton cas, je pense que c'est une bonne stratégie, là, d'aller vers un liquide qui va te fournir des glucides, là.
Mais en fait, je ne sais même pas, à ce moment-là, ce n'était pas une stratégie, là. On
T'étais en
dirait que
mode
ça,
survie.
à l'époque, il n'y avait pas, on parle de, ça fait quasiment 10 ans, de tout ça, pareil, là.
Oui.
Il y avait beaucoup de produits qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas à ce moment-là, là. Tu sais, on avait le Gatorade. Je me rappelle que j'avais, il me semble que j'ai bu aussi un lait au chocolat, mais tu sais, il n'y avait pas tant de choses que ça. Puis je savais que le coke, ça donnait un kick parce que j'avais vu Pierre Lavoie en parler dans une conférence.
Ouais.
Et ça aussi, je veux dire, c'est aussi pour faire attention à ça, là, ce qui est caféine, là. Tu peux
Oui.
parler là-dessus un peu, mais moi, ce que j'ai constaté avec les années, c'est que essaye de repousser le moment où tu vas en prendre le plus loin dans une course, tu sais, puis au niveau digestif aussi du coke, là, à un moment donné, tu sais, c'est
Ouais.
pas l'idéal non plus, mais j'ai
Ouais.
l'impression plus qu'on consomme de la caféine de bonne heure dans une course, plus qu'on est pogné pour en consommer, mais je peux me tromper, là.
Ben, en fait, tu sais, mettons qu'on décortique le coke, premièrement, tu sais, tantôt, je disais, bon, c'est un liquide qui contient des glucides. Fait que, tu sais, il y a ça qui est comme intéressant avec cette boisson-là parce que c'est très concentré en glucides. On ne se le cachera pas, là. C'est une petite quantité de coke, ça contient quand même beaucoup de glucides. L'autre élément du coke, c'est effectivement la caféine. Fait que, tu sais, la caféine va avoir un impact sur, tu sais, notre sensation de fatigue, notre concentration, plusieurs éléments, notre vigilance à la course. Plusieurs éléments qu'on veut garder le plus possible allumés pendant une course. Mais pour ce qui est de la caféine, dans le fond, tu sais, premièrement, il y a la caféine en amont d'un départ. Fait que on a quand même des belles études qui démontrent. Puis encore là, il y a des dosages, il faut que ce soit individualisé. Mais avant un départ de course, une heure pré-départ, par exemple, ça peut être une stratégie d'intégrer déjà de la caféine. Puis pendant, tu sais, je pense qu'il y a pas de façon parfaite de le faire. Encore une fois, il y a des dosages à respecter. Faut pas consommer des trop grandes quantités de caféine parce qu'on voudrait pas, tu sais, au final, dans notre, tu sais, si on part pour un 80 km, là, un 80 km de course en trail, ça prend pas 2 heures. Ça prend une couple d'heures. Fait que si effectivement, pendant notre course, on consomme la caféine chaque heure, puis qu'on accumule la caféine, puis qu'on se ramasse avec, je vais dire n'importe quoi, là, un 1 000 mg de caféine dans notre journée, on peut avoir des effets indésirables de caféine, là. Fait que, tu sais, il y a ça qu'il faut garder en tête, mais je pense que c'est possible d'en avoir quand même, tu sais, avec une certaine fréquence, en respectant les dosages, puis que ce soit correct. Puis il y a d'autres personnes qui vont se dire, un peu comme toi, ben, tu sais, moi, en début de course, je sens pas nécessairement le besoin d'avoir de la caféine. Fait que, tu sais, je vais la consommer à partir d'un certain moment, quand je sens que je commence à me pogner les pieds dans les roches un peu partout dans les racines, que je suis vraiment moins allumée. Fait que, tu sais, là, ça pourrait être une stratégie, mais il n'y a pas de façon parfaite de le faire. C'est vraiment de trouver notre façon à nous, là.
Ouais, non, effectivement. Là, je me rappelle par contre que cette fois-là, au niveau de la vigilance, ça n'avait rien donné pendant tout parce que je m'accrochais les pieds dans la racine.
Quand même.
Oh oui, j'étais vraiment, vraiment, vraiment à bout, là. Ouais.
Ouais. Mais c'est ça, c'est dur hein, quand on se rend à ce stade-là de revenir vraiment comme à notre 100%, à notre plein potentiel que j'appelle, c'est vraiment difficile.
Puis c'est ça, je pense que c'est plus difficile de s'en sortir que de se rendre là.
Tout à fait. Oui, c'est bien dit ça.
Ouais, tu sais, se rendre là, ça va bien, hein? C'est quand même assez facile, là. Mange
Ouais.
pas, puis tu sais, comme vis le beau petit moment présent, puis regarde tout ce qui se passe autour, puis oublie de manger, ça c'est facile, mais à un moment donné, quand
Ouais.
tu n'as pas assez mangé. Il m'est arrivé
Tu
quelque chose aussi
vois, ça
en passant.
me fait rire quand tu dis ça parce que tu dis regarde ce qui se passe autour puis oublie de manger. Moi, en fait, je regarde ce qui se passe autour, j'oublie pas de manger, mais je me perds.
Ouais.
Parce que je regarde pas les flags. Ça, c'est une
Ouais,
autre
c'est ça.
affaire.
Mais tu sais, même toi, là, il me semble que l'année passée, ça se peut-tu qu'au Grand-Duc aussi, il t'est arrivé quelque chose comme ça un peu que. Non, tu mangeais quand même normalement
Non, au
ou. Ouais.
Grand-Duc, ça s'est bien passé. Je te dirais, moi, que ce qui m'est arrivé, là, puis il me semble que c'est en 2022, au Bromont Ultra sur le 25 km, on dirait, puis je sais pas pourquoi ça s'est passé, puis ça, même encore aujourd'hui, je suis pas capable d'expliquer tant que ça, mais, tu sais, vient un temps où on se connaît bien, on connaît ce qui fonctionne bien, les produits, les aliments qui rentrent bien, mais il y a quelque chose que je consomme tout le temps qui rentrait pas. Okay, ça me roulait littéralement dans la bouche. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte là, que ça faisait, je pense, 1 heure et demie, okay, que j'essayais de consommer la patente, là. Puis là, je me suis dit, OK, Audrey, ça ne marche pas ton affaire. Ça fait 1 heure et demie, là, puis tu as peut-être consommé 5-10 grammes de glucides à cause que tu essayes de mastiquer ton truc, là, genre, clairement, switch ta stratégie à autre chose, là. Fait qu'il a vraiment fallu que je réalise que, OK. Pour ça, pour aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas. Clairement, ça va rester dans ma veste. Puis, je me suis adaptée par la suite. Mais, tu sais, c'est ça. Cette fois-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pourrais pas te dire. Mais maintenant, en course officielle, ce que je sais, c'est que je vais aller vraiment vers des trucs plus liquides, semi-liquides, puis les affaires à mastiquer. Oui, je vais en consommer parce que, bon, quand on est sur du, mettons, moyen et long, c'est quand même important. Mais ça, ma stratégie ne va pas être basée seulement là-dessus,
Non.
là. Ouais.
Je comprends. Ouais, ben ça me disait qu'il me semble que t'étais déjà arrivé quelque chose. Fait que, tu sais, je me dis, même les pros de la
Oui,
nutrition
oui.
arrivent
Ben,
à
définitivement.
avoir un plan B, puis un plan C, puis un plan D.
Vraiment.
J'ai une petite anecdote, si tu veux, aussi, là.
Ouais, vas-y.
C'est pas en lien avec la course, mais c'est en lien avec une expédition de ski que j'ai faite l'an passé, puis peut-être que ça peut être intéressant d'en parler, parce que je pense qu'à l'hiver, il y a quand même quelque chose qui se passe là, au niveau de la dépense énergétique. J'en parle un peu à mes athlètes des fois, parce que même au niveau de l'hydratation, tout, tu sais, le monde, on dirait qu'on le fait que c'est plus long avant d'avoir chaud, on dirait que psychologiquement, on dirait qu'il y en a qui pensent qu'ils ont moins besoin de manger, mais c'est l'inverse, parce que le corps bas pour se garder au chaud, fait que tu dépenses encore plus, puis des fois tu te rends pas compte à quel point tu dépenses. Puis l'an passé, j'ai fait une expédition de ski sur le lac Abitibi avec un ami, puis lui était plus rapide que moi, là, puis il avançait, puis je pense qu'à toutes les demi-heures, ben il m'attendait, puis on mangeait, tu sais, vraiment à toutes les demi-heures, mais il mangeait quand même entre-temps. Puis moi, mes affaires que je m'étais emmenées, ça c'est important aussi, surtout l'hiver, ben il faut que tu penses que ça va geler. Tu sais, il faut plus que tu penses à ce que tu vas traîner sur toi là, pour que ça se mange bien. Puis écoute, les trucs que j'avais emmenés, c'était pas pratique, là. Fait que pas assez manger. Puis je l'ai payé, mais c'était moins pire parce que je veux dire, j'étais pas dans une course. Puis à un moment donné, on prenait notre temps pareil, mais je l'ai vu clairement. J'étais comme, ben, j'ai donc ben pas de gaz, tu sais. Fait que
Ouais.
là, faut que tu prennes des notes un petit peu. Bon, mais qu'est-ce que j'ai pris? Ça marchait pas, puis il faut que je recommence avec d'autres choses, là. Mais ça, c'est des essais et
Ouais.
erreurs. J'ai l'impression que c'est ça. C'est comme. Des fois, on dirait que c'est des essais et erreurs à chaque fois un peu, tu sais, parce que les expériences sont
Ouais.
différentes, là. Mais ouais. Il y avait eu ça, là, tu sais, je veux dire, vraiment au niveau de se battre un peu contre les éléments, là. Surtout ce qui est froid, ben là, mange plus. En tout cas.
Mais tu sais, ça s'applique, là tu parles d'une expérience de ski, mais ça s'applique à tous les sports d'hiver, en fait, là, qu'on pratique la course l'hiver ou un autre sport d'hiver, ben c'est vraiment pertinent ce que tu dis parce que oui, effectivement. Le froid va avoir un impact sur nos besoins énergétiques, là, parce que y a comme des micro-frissonnements qui ont lieu dans nos muscles qu'on ne sent pas, mais c'est pour aider notre corps à garder sa température. Mais ça, c'est une dépense énergétique supplémentaire à l'effort. Fait que c'est super important de le garder en tête. Puis là, on parle de besoins énergétiques, mais il y a les besoins hydriques aussi, là. Je vois cette erreur-là, les gens qui négligent un peu l'hydratation en se disant, mais de toute façon, il fait froid, je sue moins. Mais oui, la situation peut être différente, mais tu quand même, premièrement, et tu perds plus de liquide par la respiration, parce que je vous annonce qu'on perd des liquides quand on expire. Puis là, l'air qu'on respire est froid et sec, donc on perd plus de liquide par l'expiration. Puis il y a un petit phénomène qu'on appelle l'augmentation de la diurèse au froid. La diurèse, c'est la production d'urine dans notre vessie. Fait que oui, on perd quand même des.
Oui.
Tu le vis bien. Oui, il y a des gens qui vont vraiment le sentir, là. Il y a d'autres personnes qui ne le sentiront pas nécessairement pendant l'activité, mais vont plus le sentir après. Mais c'est vraiment un phénomène, tu sais, qu'on a bien identifié avec la littérature, là. Fait que, bref, il faut s'assurer de bien manger, il faut s'assurer de bien s'hydrater. Et effectivement, il faut comme penser, quand on bouge au froid, à la stratégie parce que, bon, il y a l'enjeu de ça gèle, puis il y a l'enjeu de, généralement, on a les mains emmitouflées, puis on ne veut pas que ce soit compliqué de s'alimenter. Parce que si on commence à devoir, tu sais, enlever nos mitaines à chaque fois, gérer les bâtons et compagnie, il y a des chances que tu te dises, ah, je vais attendre un peu plus, je vais attendre un peu plus. Puis là, finalement, on vient de passer une heure et demie sans rien prendre, tu sais.
Dirais que c'était mon cerveau là, il y a un an quand que je criais.
Comment?
Ce que tu viens de dire, c'est comme ce qui se passait dans mon cerveau.
Ah
Il y avait
ouais, hein?
moi qui me disait non, non, attends un peu, t'es encore correct, t'es encore correct. Les bâtons,
Ouais.
les mitaines, tu sais, tout ça, là, c'était
Hein?
comment? Non, ouais, taponnage, je vais manger tantôt, tu sais, puis
Ouais.
non.
Mais c'est pour ça que je le dis parce que je veux dire, les gens qui me disent ça, c'est fou, là, c'est vraiment fréquent, là. Puis je suis curieuse, est-ce que tu as identifié des trucs qui gèlent pas ou qui gèlent moins?
Ben, tout ce qui est fait avec des dates, hein, avec des dates courtes, là, puis la purée de dates, là, c'est sûr que les boules d'énergie faites avec la purée de dates, c'est quand même pas pire. Voyons, j'avais quelque chose sur le bout de la langue. Mais tu sais, c'est ça, moi, c'est que je fais beaucoup de ski aussi, là. Ça, tu sais, c'est, je veux dire, quand tu fais une expédition de ski, tu as un traîneau avec toi, là, tu es moins pressé, c'est pas la même affaire, là. Fait qu'il y a des affaires que tu
Ouais.
traîneras pas nécessairement dans une veste, tu sais, tu traîneras pas des ramens dans une
Ouais.
veste.
Ouais.
Parce que les ramens crus, entre guillemets, tu sais, c'est pré-cuit, ces affaires-là. Fait que tu sais, juste les nouilles, tu peux les manger comme ça sans les faire cuire, mais je veux dire, je traînerai pas ça quand je cours, mais tu sais, c'est le genre de trucs
Ouais.
dans le ski, là. Mais, hey, écoute, j'aime pas ça parce que là, je réfléchis à la question, puis j'avais quelque chose. Ah oui, il y a un ami qui m'a parlé des Twight Brownies, sûr, là, c'est bon aussi, puis ça
Oui,
gèle.
ouais.
Le gâteau fruits aussi.
Bon, OK.
Moi, j'en ai jamais mangé, mais un ami qui fait des. Un ami, un homme de 74 ans, une légende, qui fait du ski dans mon coin, lui mangeait beaucoup de gâteaux aux fruits pendant la traversée du lac Abitibi. Fait que c'est quelque chose qu'il ne voulait pas non plus. Plus c'est des fruits confits,
Oui.
là. Ouais. Fait que belle source de glucides.
Ben, tout à fait, mais oui, mon Dieu. Puis d'ailleurs, les brownies là, que tu parles, là, c'est quoi les marques de
Les
céréales
Two Bites,
empoignées, là? Ouais, dirais-tu ça. Tu sais, c'est quand même intéressant. Puis tu sais, même dans un contexte, là, on parle d'hiver, là, mais sortons du contexte d'hiver dans un ultra, tu sais, l'été, quand il fait chaud. C'est intéressant comme aliment parce que c'est un aliment quand même généralement réconfortant. On connaît pas mal tous ça. Puis la valeur nutritive est quand même intéressante. Ça se traîne bien, ça se défait pas trop. Ça peut se ramasser quand même écrasant galette, là. Mais tu sais, c'est un aliment qui se traîne quand même bien. Fait que j'ai des gens que j'accompagne qui vont en avoir dans leur stratégie de nutrition ou dans leur drop bag comme aliment réconfortant aussi.
Oh, ouais, ça c'est important quand tu fais des langues aussi. Là, j'avais fait la backyard cet été aussi. Là. Fait que j'avais quand même une bonne liste de trucs aussi à manger. Là, parce qu'à un moment donné, t'es tanné un peu de manger la même
Oui,
affaire.
j'ai parlé de Backyard, je pense, à quelques reprises sur le podcast. Je suis un peu mêlée dans la diffusion de mes épisodes, là, mais juste pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, peux-tu expliquer c'est quoi une Backyard?
backyard, c'est une course, dans le fond, on fait 6,7 km, fait que c'est une boucle ou un aller-retour qui totalise 6,7 km. Fait que, exemple, tout le monde part à 9 h le matin pour la boucle numéro 1. Et dans le temps de 1 h, dans le fond, tu as 1 h pour faire ta boucle avant le départ de la deuxième boucle. Fait qu'il faut que tu aies le temps de compléter ta boucle. Soit à la course, à marche alternance, c'est toujours mieux. Dans un laps de temps assez court pour avoir le temps de te reposer puis de manger, mais assez long aussi pour dire que tu pars pas en fou, tu sais. Fait que généralement, là, la moyenne dans le monde qui t'offre longtemps, c'est entre 48 et 52 minutes. Moi, c'est ce qu'on m'avait divisé, là. Fait que c'était pas mal ça que je visais aussi. Fait que là, j'avais entre 12 et 8 minutes, 12 minutes pour, ben c'est ça, m'écraser dans la gravité, manger, si possible d'avoir le soutien qui t'aide à manger et ben aller aux toilettes aussi.
Tu sais, ce que tu n'as pas dit, c'est que l'objectif de cette course-là, en fait,
Oui,
c'est de faire le plus de boucles
tout
possible.
à
Là.
fait.
Donc, ça a comme pas de fin, cette affaire-là.
Non, on fait toutes les années, là, les hauts mondiaux, ben c'est ça. On fait comme ça se peut pas, là, à un moment donné. Je me rappelle plus, là, cette année, c'était 108 heures, je pense, 107 ou 108. Fait que là, on parle de 4 jours et demi, là.
Et
De
quand
mouvement.
même, un pas pire nombre de kilomètres aussi,
Ça n'a
là.
pas de bon sens, là. Ça a pas de bon sens, à un moment donné, là. C'est comme. Entre les années, tu dis, ça, ils pourront pas dépasser ça. Ben oui, puis ils sont tout le temps comme deux, trois, là, finalement. Parce que là, l'affaire, c'est que tout le monde est DNF, sauf la dernière personne. Donc, ça se peut que le record de l'année d'avant soit battu par deux ou trois personnes, mais ça reste quand même les deux, trois autres personnes, puis il reste juste le gagnant, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est bien spécial comme sport. Fait que c'est ça, tu sais, il y a un moment donné, quand tu cours pendant 20, 30, 40 heures, on s'entend que, ben c'est ça, tu sais, c'est bon des brownies, là, mais tu peux pas manger ça tout le long parce qu'à un moment donné, il te lève le cœur. Fait que ça prend vraiment une grande variété. Fait que là,
Tout à
c'est
fait.
pratique dans un événement comme ça parce que tu le traînes pas nécessairement sur toi, là. Mais moi, j'ai mangé beaucoup d'affaires différentes, là. C'est des trucs, mettons, qui se traînent bien, là, les brownies. Bon, c'est moi un petit peu, là, les Oreos. Moi, j'aime beaucoup les Ritz sandwich.
Oui, que tu fais toi-même dans le fond?
Non, non,
Ou
non,
tes
j'ai fait
achats faits. Non, mais je te
ça.
demande ça parce que il y a des gens qui vont faire justement des genres de sandwich maison avec des biscuits Ritz, là, mais
Ah.
nature, avec du beurre de peanut
Génial.
dedans. Ouais, fait que c'est comme un, ça fait
Ouais,
changement. Ouais.
ben il y en a au beurre de pinot, puis il y en a au fromage, mais moi j'aime beaucoup ça au fromage. Hey, c'est ça. J'achète jamais ça chez nous, là.
Ouais.
J'achète ça pour des courses ou pour me pratiquer, mais tu sais, je veux dire, je mange pas ça dans mon quotidien.
Tu sais,
Les petits
d'ailleurs, ça
maïs.
permet aussi ce.
On en avait parlé ensemble de ça, là, des petits maïs frits, là.
Oui, les petits maïs rôtis, genre au barbecue, il y en a
Ouais,
aussi nature, d'autres
c'est vraiment
saveurs.
bon. Ça vient pas humide, fait que ça se traîne bien aussi, puis c'est vraiment salé, fait que ça change vraiment le goût. Des trucs avec du gingembre dedans aussi, ça peut être intéressant, là, des biscuits avec du gingembre, ou tu sais, les petits bonbons là, qui collent aux dents là, au gingembre. Le ginger ale, évidemment, là, mais tu sais, pour qu'on commence à avoir des nausées aussi.
Ouais, quand on a le système digestif fragile, quand on a le système digestif fragile, c'est quand même intéressant d'intégrer du gingembre. Tu sais, d'ailleurs, maintenant, il y a des suppléments même qui vont, des suppléments pour sportifs qui vont en contenir, mais c'est tout à fait possible d'apporter des trucs nous-mêmes. Il y a du gingembre confit aussi qu'on peut faire, là. Et moi, souvent, je parle de la fameuse recette de Ricardo, là, parce que hein, Ricardo, c'est tout le temps gagnant. C'est pas vraiment compliqué comme recette. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais ça nous permet d'avoir accès à du gingembre confit.
Mangerais pas nécessairement du petit gingembre de sushi là, pendant une course. Là. Ça serait peut-être
Ah non, hein?
un peu raide, là,
Oui,
mais.
non, effectivement.
J'avoue que le gingembre confit, ça ferait belle idée aussi, là.
Ouais, ça devient
Mais
comme un peu sucré. Ouais.
comment?
Ça change pas le goût, là, mais.
Ça
Ça change pas le goût, là, mais au moins, tu sais, ça, c'est ça, ça nous permet de d'avoir un l'effet du gingembre, là, au niveau des nausées. Ouais.
c'est vraiment ça, là. Il faut essayer des choses. Puis, tu sais, moi, je suis pas. Tu sais, je trouve ça pratique, là, les trucs déjà tout fait, puis les trucs pour sportifs, mais tu sais, c'est un budget associé à ça aussi, là. Fait que, tu sais, je vais prioriser certaines affaires dans ces gammes-là, mais
Ouais.
définitivement, je ne m'alimente pas juste avec ça parce que ben, je pense que je m'écœurerais aussi, là, je ne serais pas
Tu viens
capable.
de nommer quelque chose, je pense, que j'ai jamais abordé sur le podcast, puis c'est vraiment important. En fait, il y a le budget, un, puis deux, il y a le fait que si on fonctionne tout le temps ces mêmes affaires à l'année longue, effectivement, on se tanne. Fait que des fois, il y a des gens qui vont m'arriver puis ils vont me dire ça, tu sais, Audrey, je réalise que, mon Dieu, l'achat de mes suppléments, c'est équivalent à ma facture d'épicerie, tu sais. Pour certaines personnes, c'est super correct, puis il n'y en a pas de problème, mais, tu sais, pour d'autres, OK, peut-être que je pourrais voir qu'est-ce qui est possible de faire pour que ce soit un peu plus équilibré, du moins. Puis c'est tout à fait possible de cuisiner des affaires ou même de trouver des trucs déjà faits qui sont pas nécessairement, tu sais, vendus en tant que supplément spécialisé, j'ai envie de dire, la nutrition sportive. Tu sais, souvent, ce que je vais dire, c'est dans la période où on n'est pas dans un gros volume ou en préparation pour un événement spécifique, ben on pourrait peut-être justement avoir une stratégie différente pour éviter de s'écœurer dans l'année, fait aller vers des trucs un peu plus maison qui coûtent moins cher. Puis quand on se prépare pour un événement, puis on sait que ça va être plus spécifique, mettons que c'est plus compliqué de traîner nos trucs maison tout le long, ben là, on pourrait se pratiquer avec les suppléments pour pratiquer notre stratégie de nutrition à l'avance, puis utiliser ça pendant, là, mais c'est un très, très bon point que tu nommes.
En plus, tu sais, quand on arrive dans un gros volume de courses, comme tu dis, puis là, ben, tu dis, ben, je vais pratiquer ce que je vais manger, qui sont des suppléments que tu achètes. Ben, d'emblée, des fois, dans ces moments-là, tu as moins de temps de cuisiner aussi parce que tu t'entraînes plus. Là, parce que ça peut être un bon moment aussi.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Puis en ayant testé des trucs maison à l'avance, si tu sais, tu peux te dire, bon, mais je vais en faire, si ça se congèle, mettons, je vais en faire un peu de plus, j'en congèle, comme ça, je suis sûre que je vais en avoir, là. Mais oui, tu sais, un autre bon point, quand le volume augmente, généralement, tu sais, on a un nombre max de 24 heures dans une journée. Dans ces 24 heures-là, généralement, on travaille, généralement, on dort. Fait que, si l'entraînement prend beaucoup de place, ben la place pour les autres choses diminue un peu, là. Fait que d'être organisé, planifié, je pense que c'est la clé, là, dans ces périodes-là.
Exactement.
Ouais. Est-ce que tu as d'autres enjeux, défis en nutrition qui te viennent en tête?
moi au quotidien, là. Quand je rentre dans un. Ben, j'ai de la misère à bien équilibrer, je te dirais, mon alimentation. Quand je suis off-season, quand je suis pas off-season, ben, quand je suis dans ma grosse saison, mettons. Tu sais, je trouve que c'est quelque chose qui est difficile. Mais en même temps, je pense que peut-être qu'on a de la. Peut-être qu'on ne s'écoute pas assez, mais tu sais, je peux me tromper. C'est
Ouais,
normal.
tellement.
Parce qu'on est dans un gros volume d'entraînement. À un moment donné, probablement que si on s'écoutait, on mangerait plus parce qu'on a plus faim, tu sais.
Oui.
Mais
Bien, on a plus faim dans un gros volume, oui, mais tu sais, le sport a quand même un effet anorexigène que j'appelle, là. Bien, que j'appelle pas, c'est pas moi qui ai nommé ça du tout, là, mais bref, anorexigène, ça veut dire coupe-faim, là. Fait que tu sais, oui, définitivement, tu sais, nos besoins nutritionnels, nos besoins énergétiques vont varier en fonction de notre volume d'entraînement, évidemment. Généralement, quand on est bien à l'écoute de nos signaux de faim, la faim va changer aussi, mais jusqu'à une certaine limite. Fait que ce que j'explique souvent, c'est que dans une période de gros volume, super important, oui, d'écouter notre faim physiologique. Fait que vraiment, tu sais, quand on a faim dans notre ventre, là, mais aussi notre faim logique et rationnelle. Puis ça, c'est nos connaissances, nos expériences de manger quand ça fait du sens de manger. Puis des fois, on va se dire, ben, je viens de faire un, je sais pas moi, un gros entraînement, j'ai pas faim physiologique au niveau physiologique, mais t'sais, ta faim logique, elle te dit, ben, j'ai des besoins de récupération parce que j'ai un autre entraînement dans la même journée ou j'ai un autre entraînement dans moins de 24 heures. Il faut récupérer à ce moment-là. Fait que, t'sais, en haute saison, souvent, ce que je dis, c'est ça qui est hyper important. Puis en basse saison, ben, effectivement, notre corps s'adapte, nos besoins s'adaptent et nos signaux s'adaptent généralement. Fait que, tu l'as nommé, c'est super important d'être à l'écoute. Il n'y a pas de façon plus précise, en fait, de savoir si ce qu'on fait fait du sens ou pas que nos signaux de faim et nos signaux de rassasiement, là.
Comme, tu sais, là, tu me parles de ce que. Comment t'as appelé ça?
Les signaux de faim et les signaux de
Ouais,
rassasiement.
non, c'est la fin, là, qui n'est pas un beau nom, là, mais.
anorexigène.
Ouais, anorexigène, ouais, j'avoue que. Probablement que ma faim, je la ressens plus comme quand je suis dans un volume de course normal, mais j'ai l'impression que c'est comme après que la grosse saison est faite, ben, après le gros événement, mettons, tu sais, on est comme, on dirait, je sais pas, là, c'est loin d'être là-dedans, là, je veux dire, là, j'ai faim comme après mon événement, mais vraiment comme beaucoup. Faut qu'il y ait une fin à ça aussi, là.
Ouais.
Par rapport à ça,
Mais ça peut être.
là, mais faut pas que ça dure 2 mois non plus.
Ça peut être plusieurs choses qui expliquent ça. T'sais, ça peut être, oui, l'alimentation en général. T'sais, souvent, ce que j'explique quand on parle de nutrition sportive, il y a vraiment comme différents volets là, à voir. Puis je vois ça en pyramide. Je ne sais pas si tu m'as déjà entendu parler de ma fameuse pyramide. Ça dit quoi?
Peut-être.
OK, en tout cas, ma pyramide, là, je la vois avec une base qui est l'alimentation du quotidien, justement, tu sais, les repas, les collations, mettons, de base en dehors du sport, là. Après ça, le centre de la pyramide, c'est vraiment tout ce qui touche les entraînements, le plan d'entraînement, l'adaptation de l'alimentation en fonction du volume d'entraînement, puis des différents cycles du plan d'entraînement dans l'année. Puis la pointe de la pyramide, c'est la préparation pour un événement. Fait que c'est ce qui va se passer, mettons, au niveau, oui, entraînement pour planifier cette stratégie-là, mais aussi avant l'événement, si, mettons, il y a une surcharge en glycogène qui est nécessaire, qu'est-ce qu'on va manger avant le départ, puis vraiment pendant l'événement. Ce que tu m'expliques, tu sais, ça peut être un problème à différents niveaux dans cette fameuse pyramide-là. Tu sais, ça peut être autant le quotidien, l'adaptation de l'alimentation en fonction du volume, les stratégies autour des entraînements, ça peut être pendant, évidemment. Là, c'est sûr que si tu as vraiment un grand déficit pendant ton événement, ta stratégie n'est pas optimale, ben oui, ça va te rattraper après. Puis c'est quand même normal qu'il y ait une espèce de petit rebond après. Puis tu sais, des fois, les gens ont comme un peu peur de ça, puis ils me disent, hey, tu sais, pourtant, je suis au repos, tu sais, je bouge pas, mais oui, tu es au repos, mais tu es en mode récupération. Puis on va le voir même au niveau, sans que ce soit un événement, là, au niveau entraînement. La période de récupération après un entraînement là, peut s'échelonner de 24 à 48 heures après. Fait que ça se peut que 2 jours plus tard, tu récupères encore de ton entraînement d'il y a 2 jours, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis que il y a des gens qui vont essayer de gérer leur alimentation vraiment au jour le jour, puis adapter leur alimentation en fonction de l'activité d'aujourd'hui. Est-ce que c'est repos versus gros entraînement, versus muscu, versus... Mais la réalité, c'est que nos besoins nutritionnels, là, ça prend une constance dans notre semaine. Fait que je pense qu'il faut avoir une compréhension globale de nos besoins, encore une fois, en fonction de notre plan d'entraînement, là. Mais ouais, ça peut être vraiment une explication à différents niveaux, mais il y a quand même une certaine normalité là, dans ce qui se passe après un événement comme ça, là.
Ce que je comprends un peu aussi de ce qui t'explique, c'est que c'est important de même si on est en train de se préparer pour un événement, de même si on s'entraîne, il faut penser à notre base tout le temps aussi, puis pas oublier ça. Tu sais, je veux dire, de manger, c'est important.
Fréquemment.
Mais on en a besoin aussi, puis
Oui.
il y a du plaisir là-dedans aussi, là, surtout,
Tout
là.
à fait. Puis, tu sais, fréquemment dans ma pratique, il y a des gens qui m'arrivent puis qui me disent j'ai un événement de prévu, puis tu sais, je veux vraiment qu'on parle de la stratégie pour cet événement-là pendant, mettons. Puis là, je leur dis parfait, tu sais, on peut faire ça ensemble, mais sache que on a beau avoir la meilleure stratégie pendant, si ton alimentation du quotidien n'est pas optimale, ça se peut que tu ne te sentes pas à ton plein potentiel pendant, mais je veux juste que c'est correct si tu veux qu'on ait juste dans le pendant. Mais sache-le, tu sais. Fait que c'est vraiment un tout, puis tout ça est imbriqué ensemble.
C'est quand même complexe.
Quand même complexe. C'est pour ça qu'on essaye de démystifier tout ça avec le podcast puis les réseaux sociaux.
Certain.
On a parlé un peu de tes aventures. On a parlé de l'aventure de ski, des différentes courses que tu as faites, mais est-ce que tu as déjà des trucs de prévus pour 2024?
Hey, oui, mais ça a comme bougé un peu là, à cause de ma vie personnelle. Mais ce que je peux dire qui est cané pour 2024, c'est Arikana. Je vais aller courir les 2,42 à Arikana cette année.
Très
Ouais,
cool.
fait que le 42 classique du samedi puis le 42 Saint-Siméon du dimanche. J'étais pas là l'année passée à Arikana, puis d'habitude ça fait, je sais pas, 5-6 ans là, que j'y allais, là, soit pour être bénévole ou pour courir. J'ai manqué l'année passée. Puis,
Qu'est-ce que tu as couru déjà à Arcana dans les années précédentes?
j'ai couru le 125 en 2017. Puis j'ai couru de 65 en 2018.
OK.
Ensuite de tout ça, je pense que je suis comme pas allée en 2019. Il y a eu la pandémie, puis ensuite, j'étais sur l'UTHC TV. Reporter terrain, ouais. Fait que là, ça fait longtemps que j'ai pas couru, en fait.
Fait que là, dans le fond, c'est des nouveaux parcours pour toi, là, ces deux parcours-là.
Oui, je l'ai jamais fait. Ben, le 42 classique, si je me trompe pas, je pense que c'est les 42 derniers kilomètres de.
Ah ouais, c'est vrai, je pense que oui.
Je pense qu'ils font, tu sais, ça fait longtemps, là, je suis pas sûre que c'était comme ça dans le temps, mais je pense vraiment que c'est comme le dernier 42, mettons, du 65. Puis le 28, c'est le dernier 28 de toutes les autres distances. Fait qu'il y a vraiment, si je me trompe pas, on va courir ensemble le dimanche.
Oui,
Sur
c'est ça qui est
le
prévu en tout cas.
L'avais-tu annoncé publiquement que tu courais?
Je sais pas. Ben, j'avais quand même. Ben, écoute, je me souviens plus.
Écoute,
Peut-être.
c'est trop montant.
Ben non, je suis vraiment pas,
Hey, je
vraiment pas gênée de le dire. Ça va être
t'encourage.
vraiment le fun.
Vraiment.
Vraiment, puis d'être, tu sais, c'est ça, comme tu l'as dit au départ, ce qu'on a en commun aussi, c'est notre belle région. Puis nous, l'enjeu qu'on a, c'est les déplacements. Là, on se le cachera pas,
Exact.
les montagnes sont loin, puis quand on veut courir, faire des événements, ben, il faut se déplacer. Fait que là, ben, on va être ensemble.
Exactement. Puis il y a je suis en attente de m'inscrire à la Diagonale des Fous aussi, peut-être. Ça risque d'être mon objectif à cette année. C'est juste que j'attends un petit peu. J'ai jusqu'au 22 mars. C'est que si je suis acceptée, ben, je t'inscris au QMD 80 cette année aussi. Là. Ça va être une course que ça va me prendre pour.
Pour la diagonale.
Ouais, pour la Diagonale. Mais ce qui est canon, ça, c'est Aricana, ça, c'est sûr, 100%.
Cool. Puis c'est-tu la première fois que tu fais comme un événement, mais sur 2 jours? Là, c'est comme pas officiellement un événement sur 2 jours,
Non, puis écoute,
mais.
je pensais vraiment, j'étais comme, hey, ça va être la première fois que je fais comme deux grosses courses back-à-back comme ça, mais c'était semi-vrai parce que j'ai déjà fait le Transvallée X en 2019. Fait que c'était un 10 km le vendredi soir, 38 le samedi, 37 le dimanche. Fait qu'on n'est pas loin, là.
Ah,
J'ai
ben
réalisé ça que, tu sais, on est pas mal à la même place, là. Puis le Transvallée, c'est corsé, là, comme parcours, là. C'était vraiment tough, là.
ah, ouais.
Oh oui, on était ailleurs, là, comme au Québec. Je pense que c'était pas mal dans les courses les plus techniques, là. Moins roulant qu'Aricana, malgré qu'Aricana, il faut arrêter de dire que c'est roulant à un moment donné parce qu'ils peaufinent les parcours à chaque année, puis c'est bien moins
Ouais.
roulant
Ouais, ben je pense que Saint-Siméon, 42 Saint-Siméon du dimanche
que
est pas mal moins roulant, c'est plus technique
Exact.
que celui du samedi, là.
Ouais, je vais pouvoir te confirmer ça.
Ouais, on va pouvoir s'en reparler.
Merci.
Oh, hey, écoute, Tania, merci. Je pense qu'on a couvert vraiment des sujets super intéressants. Je sais que tu as des réseaux sociaux, tu as ta page professionnelle de massothérapie, tu as aussi des réseaux justement que tu vas partager tes aventures. Là. Je me rappelle justement de ton aventure, de ce qui t'en avait parlé. Où est-ce qu'on peut te retrouver là, pour les gens qui aimeraient aller te suivre?
Ben pour ce qui est de ma page de je sais pas comment l'appeler là, mais ma page de l'art en cours hyperactive, c'est l'art en cours hyperactive hybride sur Facebook. On va y aller avec ça parce que mon Instagram, c'est pas mal mon Instagram personnel, mais vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, c'est la même chose, l'art en cours
Parfait.
hyperactive.
Good. Je mettrai les liens dans les notes
Yes.
de l'épisode. Super. Mais merci à toi pour ton passage. Merci à tous les auditeurs. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la semaine prochaine. Un énorme merci pour ta présence sur le podcast aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de voir que les épisodes t'aident à mieux assembler les morceaux de casse-tête sur la nutrition sportive. Je t'invite à me laisser un commentaire sur le podcast pour m'aider à le faire connaître. Il suffit de te rendre sur ta plateforme d'écoute préférée et de descendre jusqu'en bas dans la section « Commentaires et avis ». Tu cliques sur 5 étoiles et tu me laisses un commentaire. C'est aussi simple que ça et ça m'aide beaucoup. Merci encore d'être là et on se dit à la prochaine!